Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnelle et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, hi, comment allez-vous? Moi, ça va, je vis bien. Enfin, je sais pas trop. Ça va pas trop. Je pense que vous devez l'entendre à ma voix. Ces derniers jours, je suis en grosse crise d'asthme et c'est juste horrible. Enfin, je le souhaite à personne, mais vraiment à personne. Donc, c'est pour ça que ma voix, elle est pas à 100% comme elle est d'habitude, mais bon, ça ne va pas m'empêcher d'enregistrer ce podcast. Alors, vous vous rappelez, mon dernier podcast, je vous avais parlé de deux tueurs en série qui ont commis des crimes pratiquement à la même période, et en plus de ça, ils étaient voisins. Donc, je vous ai parlé la dernière fois de Harrison Graham, ce tueur en série, le Cookies Monster Killer. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de son voisin, de son ancien voisin, qui était aussi un tueur en série comme lui, qui a commis des crimes vraiment atroce. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Gary Heidnik. Alors, pour cette histoire, il est important de savoir que Gary et Harrison, ils étaient, quand je dis qu'ils étaient voisins, ils habitaient à moins de 2 km l'un de l'autre. C'est une dinguerie. Genre, quelles sont les chances pour que deux tueurs en série soient voisins, mais vraiment voisins à moins de 2 km l'un de l'autre, et en plus, qu'ils commettent des crimes, genre vraiment à la même période en fait, enfin dans le même timing, c'est une dinguerie. Bref, donc sans plus tarder, nous allons commencer cet épisode qui sera consacré à Gary Heidnik. Alors, qui était Gary Heidnik? Gary Michael Heidnik est né le 22 novembre 1943 dans l'Ohio et il était le fils de Michael et Helen Heidnik. Gary était l'aîné du couple et il avait un petit frère, donc en gros ils étaient en fait deux garçons tout simplement. Donc en 1946, les parents de Gary vont divorcer et les deux frères en fait vont vivre pendant un moment avec leur mère avant de retourner en fait sous la garde de leur père et de leur belle-mère. Et apparemment, d'après les dires de Gary, son père l'a toujours nié, donc je mets ça vraiment entre parenthèses, mais en même temps, si le père a vraiment fait ce que Gary dit, il n'allait pas l'avouer en mode oui, je l'ai fait, donc bon, voilà. Mais je mets ça entre parenthèses, donc apparemment, pendant tout le temps, en fait, qu'ils ont vécu avec leur père, celui-ci aurait vraiment abusé émotionnellement des deux garçons, il était violent avec eux, enfin, c'était n'importe quoi. Donc ça, c'est d'après les dires de Gary, le père l'a toujours nié, donc voilà. L'une des choses qui a traumatisé un peu Gary dans son enfance, c'était le fait que Gary, en grandissant, il a longtemps fait pipi au lit, en fait. Quand je dis longtemps, en fait, c'est vraiment presque jusqu'à atteindre les 10 ans, en fait, tout simplement. Gary a longtemps fait pipi au lit et, en fait, son père, pour l'humilier, il l'obligeait, en fait, à se faire sécher ses vêtements, les vêtements dans lesquels il avait fait pipi, ses draps, son matelas, il l'obligeait à faire sécher ça, au vu, en fait, de tout le voisinage, vraiment, enfin, le père, il n'en avait rien à foutre, apparemment. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment blesser Gary, et même en atteignant, en fait, l'âge adulte, en grandissant, en devenant père, etc., enfin, c'est quelque chose qui est vraiment resté en lui, qui, c'est une douleur, en fait, qui est vraiment restée au fond, en fait, de son cœur, de sa tête, tout simplement. Alors, en grandissant, Gary n'était pas très sociable, c'est quelqu'un qui était très solitaire, qui n'aimait pas, en fait, du tout se faire des amis, enfin, il ne trouvait aucun intérêt à se faire des amis. Apparemment, il était misogyne, mais vraiment misogyne. Par exemple, il disait aux filles de sa classe qu'elles étaient insignifiantes, qu'elles n'avaient pas assez de valeur, en gros. Enfin, lui, pour lui adresser la parole, faut être un homme, en fait. Une fille, c'est quelque chose sur lequel il peut marcher, en fait. Une fille n'a pas assez de valeur pour lui adresser la parole. Et il disait ça incessamment à ses camarades filles, du coup. Mais en même temps, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui allait être pote avec plusieurs garçons en mode brotherhood, quelque chose du genre. Non, il ne trouvait aucun intérêt à se faire des amis. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard dans le podcast. Alors, avant de continuer, il est important que je vous informe que Gary, malgré le fait que c'était un misogyne, solitaire, etc. C'était quelqu'un de très intelligent, mais vraiment très très intelligent. C'était un bon élève et il avait un QI de 148. Yop, 148. Vous avez bien entendu. Donc, il va faire ses études solitaire, voilà, etc. Et jusqu'à atteindre l'âge de 14 ans, où il va s'inscrire dans une école militaire, une école de l'armée, je dirais. Donc, il va s'inscrire dans cette école. Par contre, il ne va pas finir, en fait, le lycée, bizarrement. Il va pas finir le lycée. Donc, il n'aura pas le bac. Par contre, dès qu'il atteint l'âge de 17 ans, il va tout de suite s'engager dans l'armée parce qu'il voulait tout simplement servir son pays. Enfin, je sais pas si c'était dans l'optique servir son pays ou si c'était une manière de s'évader, je sais pas, franchement, I don't know, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est engagé dans l'armée et il va servir dans l'armée pendant 13 mois et il va ensuite postuler pour des formations financées par l'armée, mais il va être recalé en fait dans tous les domaines où il a postulé tout simplement. Par contre, il va être finalement accepté pour une formation de mi-aide-soignant, mi-infirmier en quelque sorte et il va valider ses acquis. Ensuite, il va être déployé début 1962 en Allemagne. Malheureusement, peu de temps après avoir pris en fait son poste, il va commencer en fait à se plaindre de violentes douleurs à la tête, de nausées, etc. Et le médecin qui va l'ausculter en fait va lui diagnostiquer une gastro, tout simplement. Et à côté, il va lui diagnostiquer des problèmes psychiatriques, des problèmes mentaux. Donc, il va lui faire des prescriptions et lui renvoyer à la base, du coup, pour se reposer. Malheureusement, ses troubles psychiatriques, en fait, vont s'aggraver et il a été transféré dans un nouvel hôpital, en fait, militaire. Et là, en fait, ils vont lui diagnostiquer un trouble de la personnalité schizoïde. Je pense que j'en ai déjà parlé dans ce, enfin, sur mon podcast de ce trouble, mais je sais plus à qui on l'avait diagnostiqué, je sais vraiment plus. Mais en tout cas, en fait, cette maladie, ça veut tout simplement dire que c'est des gens qui ne sont pas intéressés en fait par n'importe quel type de relation humaine, genre l'amitié. Ils ne voient pas d'intérêt en fait, par exemple, à construire des amitiés, etc. Et en plus, c'est des gens chez qui en fait on observe très souvent une absence total d'empathie. Donc, ce diagnostic va pousser en fait l'armée à le libérer de ses obligations avec Horner. Donc, ils vont lui dire, bon, voilà, c'était sympa de t'avoir, mais maintenant, bye. Bah, il prend la porte. Donc, ils vont le libérer de ses obligations de militaire avec honneur, ce qui lui permettait tout simplement de garder sa retraite. Alors, après avoir été libéré en fait de ses obligations, il va obtenir sa licence d'infirmier. Vous vous rappelez, il a fait une formation dans l'armée, mi-aide-soignant, mi-infirmier. Ça lui a permis de valider en fait les acquis dont il avait besoin tout simplement pour être officiellement infirmier. Donc, il va obtenir sa licence d'infirmier. Puis, il va se dire, c'est bien d'être infirmier, mais j'ai envie en fait de reprendre mes études. Je sais pas ce qu'il avait comme projet, en tout cas, mais il a repris ses études. Malheureusement, il va abandonner très rapidement avant de se faire embaucher en fait en tant qu'infirmier dans un hôpital pour vétérans. Sauf que là encore, il va se faire virer tout simplement parce que il se montrait vraiment irrespectueux envers les malades, etc. Enfin, il n'était pas du tout correct avec les malades. Donc, il s'est fait rapidement virer. Et après ça, il va pas faire grand-chose. Vous vous rappelez, il a toujours sa mini-retraite de militaire, mais il va pas faire grand-chose. Il va juste faire des allers-retours en hôpital psychiatrique jusqu'à son arrestation en 1987. Alors, il est important de savoir que pendant ses allers-retours en hôpital psychiatrique, il a également fait au moins 13 tentatives de suicide. I have no word. I don't know what to say. I just don't. So, let's move on. OK? Donc, on résume un peu de 1962 à 1970. Il a erré, en fait, sans vraiment rien faire, avec des allers-retours en hôpital psychiatrique. OK? Vous avez compris? Stay with me. Okay. Donc, en 1970, sa mère va se suicider parce que elle était atteinte d'un cancer des os en phase terminale et elle souffrait aussi en fait des conséquences de son alcoolisme. Elle a été alcoolique presque toute sa vie. Donc, elle va se suicider tout simplement. Et ça va un peu chambouler le monde de Gary, du coup. Mais il va pas se laisser abattre parce que c'est cette année-là qu'il a décidé en fait de parier contre le destin et il va investir son chèque qu'il a reçu de la part de l'armée. Il va l'investir investir. Il s'agissait d'un chèque de 1 500 $. Il va l'investir sous le nom, en fait, d'une église pour ne pas payer les taxes, parce que vous savez, les églises ne payent pas les taxes. Donc, il a fait passer, en fait, ce compte-là pour un compte d'une église, alors que c'est son compte à lui, tout simplement, juste pour pas payer les taxes. Donc, cet investissement va lui rapporter beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que 15 ans après l'investissement, les 1 500 $ vont passer de 1 500 à 500 000 $ de l'époque, ce qui équivaut à 2,7 millions de dollars de nos jours. I still have no words. Comment une personne, c'est du génie en fait, c'est du génie, mais comment une personne aussi intelligente arrive à commettre les crimes qu'il a commis? I don't get it. Et je pense que c'est tout le truc bizarre des tueurs en série. It doesn't have sense. It's just messy. Like, yeah, okay, continuons. Donc, il vivait sa vie, il faisait ses allers-retours à un hôpital psychiatrique, etc. Jusqu'en 1983, où il va décider, en fait, d'utiliser une sorte de société de rencontre. Ça s'appelle des sociétés matrimoniales ou quelque chose du genre. C'est des sociétés qui mettent en contact des gens qui cherchent des femmes, des maris, etc. Donc, il va s'inscrire dans l'une de ces sociétés en disant qu'il recherchait une femme, tout simplement. Donc, on va lui présenter plusieurs profils, et parmi ces profils, une jeune femme va l'intéresser. C'est une jeune femme qui vivait aux Philippines, nommée Betty Disto. Donc, ils vont échanger des lettres, je parle de Gary et de Betty, pendant environ 2 ans. Puis, il va faire venir Betty aux États-Unis en septembre 1985, et ils vont se marier le 3 octobre 1985. Donc, ils se marient, ils entament leur vie à deux, etc. Le problème, c'est que ça va très vite passer, virer à gauche, parce que Gary trompait beaucoup sa femme. La première fois où elle a su qu'il la trompait, c'est quand elle est rentrée chez eux et qu'elle l'a vu dans le lit avec 3 femmes en train d'avoir des relations sexuelles. La dame a été choquée, elle était en mode what the shit. Et donc ça a été le début en fait du déclin, parce que à partir de ce moment-là, il ne cachait plus du tout en fait ses infidélités à sa femme. Des fois, il obligeait même sa femme à le regarder en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Ok, whatever. Betty racontera également que, en fait, il la violait très souvent, mais vraiment très très souvent, et il était aussi violent avec elle, donc elle va tout faire pour se rapprocher en fait de la communauté des gens qui venaient de la même région qu'elle, des gens de Philippines, qui vivaient aux USA du coup, et ils vont l'aider en fait à échapper à Gary. Hein, donc leur mariage va durer vraiment moins d'un an, parce que elle va partir et elle va demander le divorce assez rapidement. Et le problème est que pendant en fait la courte année qu'a duré leur mariage, elle est tombée enceinte. Sauf que au moment où elle demande le divorce, elle n'en a pas parlé à Gary. Et du coup, comment Gary l'a appris? Il l'a appris en fait au moment où elle l'a convoqué devant les tribunaux pour récupérer la pension alimentaire de leur fils. Donc c'est à ce moment-là qu'il a appris que, il est père. Après ça, Gary aura 2 autres enfants, un garçon et une fille, c'est des enfants qui seront retirés immédiatement après leur naissance à leur mère, parce que en fait, les mamans de ces enfants-là, c'était des personnes pas très stables psychologiquement, des personnes qui avaient tout simplement des problèmes psychologiques. Alors, tout ce que je viens de vous raconter là, c'est la vie de Gary au quotidien, ok? C'est la vie de Gary que tout le monde connaît. Maintenant, laissez-moi vous présenter la face cachée de Gary. L'activité criminelle de Gary, en fait, va débuter en 1976, lorsqu'il va tirer sur l'un de ses locataires. Donc, il y a eu une dispute, il y a eu un petit problème entre eux, et il s'est dit, bon, allez, j'ai une arme, je te tire dessus. Like, bro, don't do that. Donc, il a tiré sur le monsieur, et il a été arrêté, il a été inculpé pour voie de fait grave et port d'armes illégales. Ok? Donc, après cet incident-là, il va reprendre une vie normale, entre guillemets, jusqu'en 1978. Je dis normal entre guillemets tout simplement parce que on ignore s'il a commis d'autres crimes pendant en fait ces 2 ans-là, des crimes qui n'ont jamais été découverts, donc voilà, normal entre guillemets. Donc on arrive en 1978 où Gary va de nouveau se faire remarquer par la justice, parce que il sera inculpé et condamné pour le kidnapping et viol de la sœur de sa petite amie de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé, l'ami Tario? La jeune femme était hospitalisée dans un hôpital psychiatrique pour des troubles que je n'ai pas réussi à trouver, donc j'ignore vraiment de quels troubles il s'agissait, mais ça avait l'air d'être des troubles assez graves quand même, au vu de la situation, ok? Donc la jeune femme était hospitalisée et elle avait droit en fait à une permission pour aller passer du temps dehors avec sa famille, etc. Donc la permission dans les hôpitaux psychiatriques, c'est du genre tu pars à telle heure, tu reviens à telle heure, soit tu es capable de partir seule, rejoindre ta famille, soit quelqu'un vient te chercher. Je ne sais pas pourquoi la sœur de la jeune femme n'est pas allée chercher sa sœur elle-même et elle a envoyé Gary. Donc Gary est allé chercher la jeune femme dans l'hôpital psychiatrique. En gros, il est garant en fait de sa sécurité tout simplement. Et ensuite, il la ramène pas. En fait, il la ramène pas le soir venu dans l'hôpital psychiatrique, donc les gens étaient choqués. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a ramené la jeune femme dans la cave de sa maison et il l'a séquestrée là, en fait. Il va abuser d'elle, vraiment, il va la violer à plusieurs reprises. Et vu que la jeune femme n'est pas rentrée, ils ont tout d'abord l'hôpital, je veux dire, ils ont tout d'abord essayé, en fait, de contacter Gary, de contacter la famille, en mode, enfin, c'est, elle est où, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, ils vont décider de déclarer la disparition de la jeune femme, de faire une alerte, tout simplement. Ce qui a été fait, et la police a retrouvé Gary, et bien évidemment, ils ont retrouvé la jeune femme dans sa cave, et il va y avoir des expertises, ils vont découvrir qu'il l'avait violée, mais vraiment, les expertises ont également prouvé qu'il a transmis la gonorrhée à la jeune femme et tout ça n'a pas évidemment arrangé son dossier judiciaire. Donc pour ce crime, il sera condamné à 3 ans dans un hôpital psychiatrique parce que Adam Galley, pourquoi vous ne le foutez pas en prison en fait, Adam Galley? But whatever. Donc il a été condamné à 3 ans dans un hôpital psychiatrique pour les chefs d'accusation de kidnapping, de viol, etc. Donc après sa sortie de prison, il va à nouveau faire profil bas jusqu'en 1986. Encore une fois, je mets profil bas entre guillemets parce que on ne sait pas s'il a commis des crimes qui n'ont pas été découverts pendant cette période-là. Donc voilà, on atterrit en 1986. Et c'est en 1986 qu'il sera à nouveau arrêté et inculpé pour les viols qu'il a commis sur son ex-femme quand ils étaient encore mariés. Je parle de Betty, évidemment. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a fait le choix, en fait, de céder à ses démons, de... Il a fait le choix de libérer le démon qui sommeillait en lui, tout simplement. Donc, pour ce faire, le 25 novembre 1986, il va kidnapper Josefina Rivera. Il s'agissait d'une jeune femme de 25 ans. Et il va l'enfermer, du coup, dans sa cave. Et il va procéder à des viols, tortures, électrocutions, en fait. Vraiment, tout ce qu'il pouvait faire de pire à la jeune femme, il va lui faire subir. 8 jours plus tard, c'est-à-dire le 3 décembre 1986, il va kidnapper une nouvelle jeune femme pendant que Josefina était toujours dans sa cave, évidemment. Il a kidnappé Lisa Thomas, qui va subir exactement le même sort que Josefina. Donc en gros, là, il a deux jeunes femmes à sa merci, qui le violaient, torturaient, électrocutaient, enfin, par plaisir, tout simplement par plaisir. 20 jours plus tard, c'est-à-dire le 23 décembre 1986, il va kidnapper Sandra Lindsay, elle avait 24 ans. Elle aussi sera torturée, violée, affamée, électrocutée, voilà. Le 2 janvier 1987, il va kidnapper une nouvelle jeune fille. Ah oui, il les accumule dans la cave. Hein. Donc, il va kidnapper Deborah Dudley, elle avait 23 ans. 16 jours plus tard, c'est-à-dire le 18 janvier 1987, il va kidnapper Jacqueline Haskins, c'est la plus jeune de ses victimes, elle avait 18 ans. Puis, il va kidnapper finalement Agnes Adams, une jeune fille de 24 ans, le 23 mars 1987. Il les a accumulés dans sa cave et il leur faisait les pires choses, vraiment les pires choses qui existent dans ce monde. Donc, faisons un récap. Comme je l'ai dit, il a kidnappé 5 jeunes femmes entre novembre 1986 et février 1987. Ok? Stay with me. Donc, elles étaient toutes dans sa cave, il les torturait, il les affamait, etc., etc. Et malheureusement, l'une de ces jeunes femmes va décéder suite au mauvais traitement. Il s'agissait de Sandra Lindsay. Elle a succombé à cause des tortures, de la faim, etc. Et pour se débarrasser du cadavre, il l'a découpé en morceaux. Oui, oui. Il a conservé les bras, les jambes dans son congélateur. Il va faire bouillir la tête, enfin, retirer la chair, enfin, voilà. Le truc à la Jeffrey Dahmer. Exactement à la Jeffrey Dahmer. Et d'après les infos, en fait, que j'ai trouvées, il aurait cuisiné la chair de Sandra, qu'il a mélangée avec de la nourriture pour chien, et il l'a nourrie les autres jeunes femmes, en fait, qu'il détenait avec. Oh my god, I just wanna vomit right now. Par la suite, le 19 mars 1987, Deborah Dudley, elle va aussi décéder pendant les séances, en fait, de torture, précisément par électrocution. Il a utilisé la combinaison mortelle eau plus courant électrique pour la tuer, tout simplement. Et il se débarrassera de son cadavre dans le New Jersey. Alors, je vais faire une petite pause et vous donner cette info-là, que je ne savais pas trop où la mettre, du coup, dans le podcast. C'est le fait que ces victimes, celles qui ont survécu, celles qui ont plus tard témoigné contre lui, elles vont raconter que, en fait, juste par plaisir, il leur scotchait la bouche. Donc, scotch, je parle d'un scotch, du coup, il leur scotchait la bouche. Et ensuite, il prenait un tournevis avec lequel il les poignardait dans l'oreille. Mettez-moi sur un ring avec ce monsieur, en fait. J'ai envie de lui fracasser sa tête, je vous jure. Donc, après le décès de Déborah, il ne lui restait en fait que 3 filles, donc il voulait combler le vide, je dirais. Donc il va emmener Joséphina avec lui pour arpenter en fait les rues, histoire en fait de kidnapper une nouvelle jeune fille, parce que logique en fait, quand tu vois, par exemple si tu veux faire de l'autostop, tu vois un homme seul, t'auras tendance à être en mode eh. Par contre, si tu vois un couple, tu te dis ah, il y a une femme dans la voiture, donc je peux essayer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a emmené Joséphina avec lui. Et Joséphina, elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu parce que elle l'a mis en totale confiance. Elle lui a fait croire qu'elle était dévouée à lui, qu'elle allait l'aider, qu'elle allait être sa complice, du coup. Donc, ils sont partis et Joséphina l'a aidé à kidnapper Agnès Adam. Par la suite, plus tard dans la journée, Joséphina va lui faire comprendre que elle est totalement dévouée à lui, qu'elle veut rester avec lui, qu'elle ne va pas essayer de s'échapper, etc. Mais par contre, qu'elle aimerait qu'il l'autorise à aller rendre visite à sa famille parce que sa famille lui manque. Et bizarrement, bizarrement, il a accepté. Donc il accepte et le lendemain, il la dépose en fait sur le parking d'une station à essence et il lui dit en fait qu'il allait l'attendre là pour qu'ils rentrent ensemble chez Gary du coup. Donc lui, il allait rester là sur le parking de la station à essence le temps qu'elle aille rendre visite à sa famille et qu'elle revienne du coup et qu'ils rentrent ensemble du coup chez Gary. Sauf que c'est pas ce que Joséphina va faire du tout parce que à partir du moment où il l'a laissé partir, elle s'est rendue tout de suite au poste de police. Elle a prévenu la police et la police va se rendre tout simplement sur le parking où Gary était toujours garé et ils vont l'arrêter. Donc, une fois arrêté, la défense de Gary devant les flics, c'était tout simplement que, au moment où il a loué la maison, les filles étaient déjà dans le sous-sol. Lui, il sait pas comment elles ont apparu dans le sous-sol. Il n'en a aucune idée. Elles étaient déjà dans le sous-sol. Ouais, mais si elles étaient déjà dans le sous-sol, pourquoi tu n'as pas prévenu les secours? Tu ne les as pas aidés et en fait tu les as gardés captives, tu les as torturés, tu les as affamés, tu les as nourris avec de la nourriture pour chien mélangée à la chair d'une autre femme qui t'ont vu tuer. Make it make sense. Ça n'a pas de sens en fait. No. Mais il y croyait à sa défense. Il était sûr de sa défense. Elles étaient déjà là au moment où il a loué la maison. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste profité. C'est pas lui qui les a kidnappés. Il sait rien sur ça. Like, bro, give up already. Oh mon dieu, give up already. Parce que non. Donc, bref. Donc, après son arrestation, son meilleur ami, Cyril Brown, sera également arrêté. Et il va bénéficier, en fait, d'un accord en échange de son témoignage contre Gary. Parce que Cyril a non seulement été témoin du meurtre de Lindsay. Oui. Vous imaginez le truc? Genre, ami et... Oh, Lord, have mercy. Il a non seulement été témoin du meurtre de Lindsay, mais il a aussi été témoin de l'étape où il l'a découpé en morceaux, il a fait tout ce qu'il a fait avec le cadavre de la jeune femme. Revenons à Gary. Gary, après son arrestation, il sera inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, 6 chefs d'accusation d'enlèvement, 5 de viol, 4 de voies de fait graves et 2 de rapports sexuels déviants involontaire. Donc, en attendant que le processus judiciaire se fasse, que tout se mette en place, quelques semaines seulement après son arrestation, il va essayer de se pendre dans sa cellule, mais il sera secouru à temps. Après ça, son procès va très vite arriver, son procès aura lieu en 1988, et il sera tout simplement déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, enfin, logique, ce qui va conduire au verdict de sa condamnation à mort. Donc, il a été condamné à mort. Il va accepter son sort, il ne va pas... Il va pas polémiquer, il a pas bronché. Par contre, sa fille, vous rappelez, il a 2 garçons et une fille. Sa fille, qui avait 21 ans à l'époque, va s'associer avec son ex-femme, Betty, du coup, pour essayer, en fait, de faire annuler la condamnation à mort, juste essayer de faire passer ça en prison, en fait, à perpétuité, tout simplement, parce que selon elle, il avait des problèmes psychologiques, c'est quelqu'un qui n'est pas bien mentalement, qui, etc. Le problème, c'est que, vous savez ce que la prosecution a utilisé, en fait, pour descendre cet argument, ils vont utiliser, en fait, le fait que il était assez malin pour investir 1 500 $ et le faire transformer en 500 000 $. Il était assez intelligent pour savoir que si il enregistrait ce compte sous le nom d'une église qui n'existe pas, il n'allait pas payer les taxes sur cet investissement. Donc, quelqu'un qui est assez intelligent pour faire ça, vous ne pouvez pas nous dire que il est pas bien mentalement, c'est pas quelqu'un de bright. Enfin, non, non, non. Donc, la justice va descendre leurs arguments et ce sera condamnation à mort, tout simplement. Donc, il a accepté son sort, il leur a pas, je sais pas s'il leur a, c'est lui qui leur a demandé d'essayer de se battre pour lui, mais je pense que lui-même il s'en fichait royalement, parce que avant son exécution, il va à nouveau faire une tentative de suicide, avant de se faire finalement exécuter le 6 juillet 1990. Son dernier repas, c'était pizza plus café. Keep it simple. Donc, voilà un peu l'histoire de Gary et Nick. Je ne vais pas m'étaler encore longtemps parce que je pense que ce podcast est déjà assez long. Je ne vais pas rallonger le truc inutilement. On a dit ce qu'il y avait à dire, tout simplement. Et j'espère que cette mini-série de tueurs en série et voisins vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Je sais que vous pouvez laisser des commentaires, en fait, sous mes podcasts. Ceux qui me suivent sur Spotify. Les autres, je sais pas, mais sur Spotify, je sais que vous pouvez laisser des commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si voilà. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je m'arrête là. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.